Très bien.
Je remercie Monsieur Abbé pour sa communication. Nous allons passer tout de suite à la prochaine. Pardon. Donc, Christophe Marquet, professeur à l'Institut national des langues O, et il va nous parler de ces images de Ōtsu. Ōtsu est une ville très proche de Kyoto, où les pèlerins de l'époque d'Edo passaient sur le Tōkaidō avant d'atteindre la capitale, et qui c'étaient les artisans de cette banlieue, si j'ose dire, s'étaient spécialisés à peindre des petites images que les pèlerins rapportaient en omiyage, donc en souvenir de leur pèlerinage. Christophe Marquet vient de publier au début de cette année un ouvrage admirablement produit par Philippe Piquier sur les Ōtsue en français, et je viens d'avoir comme cadeau sa traduction française légèrement augmentée qui a paru au Japon cet été sur les Ōtsue. Donc, je prie Christophe de bien vouloir parler de ça.
Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais remercier le professeur Jean-Yves Robert de m'avoir sollicité pour donner une communication dans ce colloque, bien que je ne sois pas du tout un disciple de Bernard Franck. Le seul lien que je puisse trouver, c'est d'avoir succédé à Bernard Franck à 40 ans d'intervalle à la direction de la Maison franco-japonaise. J'ai pu d'ailleurs y admirer le travail qu'il avait réalisé au début des années 70, lors du 50e anniversaire de cette maison. J'ai dû moi m'occuper du 90e anniversaire, donc ça donne une échelle de temps. Je voudrais donc examiner un objet qui est largement négligé par l'histoire de l'art traditionnel et par la recherche académique en général, donc cette imagerie d'Ōtsu, une imagerie faite de peintures populaires qui s'est développée à l'époque d'Edo, en partie une imagerie de pèlerinage liée au bouddhisme, à ses origines, et dont le thème pictural le plus connu, le plus emblématique, est un démon décliné sous diverses formes, dont celle du Oni no Nembutsu, le démon invoquant le nom d'Amida. Et ces trois caractéristiques, me semble-t-il, rapprochent cette imagerie d'une partie du champ d'études qu'a développé Bernard Franck. Dans ses cours qu'il a donnés au Collège de France au début des années, à l'EPH au début des années 70, sur la démonialité dans la littérature et l'art japonais ancien, il se fonde essentiellement pour son analyse des Oni sur des textes anciens comme le Kojiki, le Konjaku Monogatari ou le Jigoku Soshi, et il fait une remarque intéressante dans un de ses résumés de cours sur la raison pour laquelle il s'est peu intéressé à l'époque d'Edo. Il écrit ceci: « La période de Muromachi et celle d'Edo apportent dans le domaine démonologique un grand changement, ou plutôt un élargissement, dû à ce que la littérature et l'art populaire puisent une partie de leur thème dans un folklore jusque-là peu exploité. » Et il considère que cette période d'Edo est un second âge de la démonologie au caractère plus fantastique, destiné à un public, dit-il, assoiffé d'insolites. Et de cela découle une sorte de détachement des formes religieuses dans lequel la part entre ce qu'il appelle la terreur réelle et l'amusement est difficile à faire. Et je crois que cette analyse très, très intéressante peut s'appliquer tout à fait à l'iconographie dont je voudrais vous entretenir. Alors évidemment, en 30 minutes d'exposé, c'est très difficile d'en faire un panorama. Je voudrais simplement évoquer avec vous quelques aspects de leur découverte et de leur interprétation au fil du temps. et je prendrai quelques exemples dans les collections françaises. Ici, d'abord, un ouvrage de Santo Kyoden, donc ce grand écrivain de la fin du XVIIIe siècle, qui s'est intéressé dans les dernières années de sa vie à la vie populaire au début de l'époque d'Edo et a rédigé une série d'essais dans ce Kotoshu, ce recueil d'antiquités, dans lequel il... Alors, c'est un exemplaire qui vient de la bibliothèque du musée Guimet, qui a peut-être rapporté Guimet lui-même du Japon, qui se trouvait dans la collection du musée de Lyon à l'origine. Et ce texte de 1813 est le premier qui envisage une analyse historique et iconographique, dirons-nous, de cette imagerie, en particulier pour les images concernant le bouddhisme, où nous voyons donc ici une figure donc d'Amida, qui est une des premières représentations que l'on connaisse dans cette imagerie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'il y a en quelque sorte trois types d'images qui ont coexisté. D'abord, des images bouddhiques qui étaient destinées à des pratiques cultuelles familiales, des jibutsu, mais en parallèle également ce qu'il appelle des tawaretaru-e, on appellerait donc des images ludiques, et puis une troisième forme qu'il appelle donc des yakusha-e, des images d'acteurs, se fondant là sur, à chaque fois, des sources littéraires de l'époque d'Edo, en particulier de la période de Genroku, ou un petit peu avant, de l'époque de Tenna, chez Basho ou chez Saikaku. Alors, c'est une première tentative donc, d'analyse avec trois étapes fondées sur des sources littéraires. Et là, je vous montre un autre document intéressant pour la compréhension de cette iconographie, qui est une gravure de Kawanabe Kyosai, ce peintre que Guimet va rencontrer au Japon, de 1864, donc toutes les dernières années de l'époque d'Edo. Et c'est surtout le texte qui accompagne donc, ce fameux Oninonembutsu, dans lequel donc, Kyosai explique les trois étapes qui lui, de cette iconographie. D'abord, image bouddhique, et puis ensuite, ce qu'il appelle Kyoga, image folle, image bouffe, c'est-à-dire une image satirique. Et puis, finalement, une dernière étape, qui n'était pas citée spécifiquement par Santo Kyoden, qui est la fonction apotropaïque. Et ce qui est intéressant, c'est l'explication des différents pouvoirs de cette image. Ce Oninonembutsu, donc ce démon habillé en moine, permet de faire cesser les cris des enfants la nuit, il protège des insectes nuisibles, il éloigne les maladies, et finalement il permet de se protéger de tous les malheurs en général selon les croyances populaires. Donc c'est une image aux multiples mérites, et cette croyance d'ailleurs semble s'être poursuivie jusqu'au début du XXe siècle au moins. Mais il n'y a pas ici de réflexion sur le pourquoi de cette image relativement incongrue d'un moine, ici d'un démon déguisé en moine, qui reproduit cette pratique qu'on appelle le Kannenbutsu, donc l'invocation à haute voix du nom du Bouddha par ces moines mendiants pendant cette période de 30 jours les plus froids de l'année, au début de l'année. Nous avons un autre document de la fin, lui, du XVIIIe siècle, qui est une sorte de manuel pour cette discipline qu'on appelle le Shingaku, donc l'étude du cœur, discipline au mouvement d'édification morale qui s'est développée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d'inspiration confucianiste et bouddhique, qui va s'emparer de cette imagerie d'Otsu pour sa force expressive à titre de support, cette fois-ci, d'un message éducatif et moral. Et nous retrouvons donc cette même iconographie avec un poème, un doka, qui porte sur l'apparence du démon, où il est dit « c'est le visage de l'homme au cœur mauvais, tel que l'a figuré le peintre d'Otsu ». Et donc nous entrons ici dans une autre interprétation de l'image, celle que l'on va retrouver ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, sur ces images d'Otsu, accompagnées de ces fameux doka, de ces poèmes à connotation morale, dont je vous ai reproduit ici deux exemples, dans lesquels on explique que cette image, finalement, est la représentation du manque de charité, de jihi ou de sincérité, par ce décalage entre l'apparence et le sentiment profond. Il s'agit donc ici d'une autre fonction qui n'avait pas été repérée par Kyosai lui-même, en dehors de sa valeur, je dirais, simplement protectrice, sa valeur pédagogique, support de la morale populaire. Alors, venons-en à des exemples français. Je parlais donc de Guimet, qui, son voyage en 1876, lui a permis, donc, pour mener cette enquête sur les religions du Japon, de rencontrer Kyosai. Kyosai, qui est peut-être l'artiste qui s'est le plus inspiré de l'iconographie d'Hotzeux pour la réinterpréter dans son œuvre. Je ne sais pas si lors de cette fameuse rencontre, la discussion a porté sur le sujet, peut-être pas. Néanmoins, Guimet ne semble pas avoir rapporté d'images type Hotzeux. En tout cas, je n'ai pas retrouvé pour l'instant, mais il a apporté une statuette très intéressante, qui a été exposée dès 1883 dans le premier musée Guimet à Lyon, de ce diable devenu moine bouddhiste. Elle est commentée ainsi dans le catalogue du musée en 1883, un vieux diable à la corne émoussée qui a pris la robe rouge, le vase à aumône, la béquille et l'inévitable parapluie du moine mendiant. Impuissant désormais à faire le mal, il ne pense plus qu'au bien. Alors c'est une interprétation intéressante parce que d'une certaine manière, elle, c'est donc cette idée du repentir, de l'acte de contrition, de récipiscence, qu'on appelle en japonais kaishin, et c'est l'explication que l'on donne généralement au sens de la corne qui est cassée du démon. Et cette œuvre a beaucoup suscité l'intérêt. Elle a été reproduite dans de nombreux journaux ou revues à l'époque, comme La Semaine des Familles, Le Magasin Pittoresque, L'Art et l'Artiste, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, même dans des textes qui présentaient l'iconographie bouddhique du musée Guimet. C'était la seule œuvre, parfois, que l'on gardait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette œuvre a complètement disparu du musée. Elle était exposée dans la galerie Boissière suite aux salles concernant la statuaire bouddhique. Il y avait une salle où l'on présentait dans une vitrine les légendes japonaises. Et j'ai pu obtenir par le conservateur du monsieur Michel Mocuère donc une photographie de l'état de la statuette aujourd'hui qui a subi quelques transformations, si on peut dire, pour être gentil. Donc ça nous indique une chose intéressante, c'est qu'à un certain moment dans la muséographie du musée Guimet, et certainement lorsque on est passé de ce musée de l'histoire des religions à un musée d'art asiatique dans une vision beaucoup plus classique voire édulcorée, on a exclu ce genre de pièces probablement considérées comme mineures et surtout dont la signification et la source a fini par échapper. Et Bernard Franck, qui dans son panthéon du bouddhique, dans cet ouvrage magnifique qui va être réédité, a accordé une place à des divinités comme les Shichifukujin, n'a pas intégré cette statuette, mais peut-être parce que justement déjà à l'époque elle était abîmée et en réserve. Alors, on la retrouve dans d'autres musées à Paris, comme le musée d'Henry, qui est ce lieu absolument extraordinaire, ce cabinet de curiosité sino-japonais, dans son jus, je dirais, de la fin du XIXe siècle. Goncourt disait de la collection que c'est une ménagerie de la fantaisie. Je conseille à nos collègues japonais qui sont à Paris, s'ils ne le connaissent pas, d'y aller faire une visite. Et on retrouve dans une vitrine, j'y suis retourné, je n'y étais pas allé depuis 30 ans, j'avais fait mes premières études de japonais à l'INALCO à Dauphine, et j'y suis retourné et j'ai trouvé dans une vitrine 6 représentations de ce Onyu Nyonembutsu, donc dans différents formats datant probablement du XVIIIe siècle. Alors le premier qui est parlé un peu sérieusement de cette iconographie et qui en est montré reste Fenollosa dans son livre « L'art en Chine et au Japon » selon la traduction française de 1913, où il présente cette iconographie à un certain moment comme une école, donc il appelle l'école Otsuye, et il explique que ces images sont considérées donc pour lui comme une expression primitive de l'estampe et une manière de vulgariser un répertoire. Alors, il ne donne pas d'analyse des œuvres elles-mêmes, ni de leur histoire, mais simplement qu'elles sont apparues dans les années 1660-70. Et cet ouvrage donc a été traduit par Gaston Mijon, qui avait fait entrer, donc conservateur au Louvre, qui avait fait entrer les collections asiatiques et l'art japonais dans ce musée. Et l'intérêt, c'est que ensuite, cette iconographie va être, à partir de l'ouvrage de Fenollosa, reproduite dans un certain nombre d'ouvrages, dans un livre un peu curieux, mais quand même assez intéressant, qui s'appelle « Le Koji Hoten » de Victor Frédéric Weber, dictionnaire à l'usage des amateurs et des collectionneurs d'objets d'art japonais et chinois de 1923, dans lequel il y a donc une entrée sur Hotsue. Et ces dessins sont considérés cette fois-ci comme des représentants des caricatures. Et donc là, on a peut-être une réduction de la signification générale, avec une explication qui est celle-ci, qu'elles étaient vendues aux voyageurs comme des talismans qui devaient les préserver contre tout accident pendant leur voyage et leur assurer prospérité et bonnes affaires. Donc cette interprétation, de toute façon, n'est pas surprenante, puisqu'il s'agit celle que l'on trouve le plus tardivement pour cette iconographie, avec la précision que des sculpteurs de Netsuke Dokimono ont parfois reproduit ce thème, ce qui est effectivement vrai, comme on l'a vu. Dans les collections formées en France à l'époque du japonisme, les Otsue n'ont absolument pas intéressé. Le seul exemple que j'ai pu retrouver, c'est une œuvre qui est présentée ici, donc le Naginata Benkei, venant de la collection de Charles Vignier, un poète symboliste d'origine suisse un peu oublié, qui avait fréquenté Verlaine et Matisse, et qui est le premier à Paris à avoir présenté l'art africain en 1913. Il est surtout connu pour ça aujourd'hui, mais c'était un grand spécialiste aussi de la gravure. Lui avait quelques œuvres, en avait compris la signification et s'était intéressé justement pour cette forme de primitivisme. En fait, il n'est pas le seul, et je dirais d'une certaine manière, la France a influencé le regard de certains collectionneurs et de certains artistes, dont un peintre bien connu au Japon qui est Umehara Ryuzaburo, qui lui était venu en France dès les années 1910, travailler avec de grands peintres français et qui a réalisé un don en 1962 d'une œuvre qui est ici présentée, qui se vagera au visage vert. Et j'ai mis en parallèle un Ofuda donc, de la collection de Bernard Franck sur le même thème pour vous montrer la différence de représentation iconographique et cette importance donc, du caractère primitif de l'œuvre. Et donc Umehara, qui était un ami de Renoir, un admirateur de Matisse, avait présenté l'œuvre au Japon dès 1948 dans une revue, et il expliquait pourquoi il s'y était intéressé. Avec cette phrase admirable, il dit: dans cette œuvre se déploie à merveille la beauté de l'art primitif, sa naïveté, sa simplicité, sa luminosité. Et donc, pour Umehara et les gens de sa génération, ce n'est pas évidemment la dimension religieuse originale qui les intéressait, mais ce primitivisme plastique des images d'Otsu qui le rapprochait de l'art contemporain et de sa propre quête, de son propre idéal artistique. Et c'est ce qui va ensuite intéresser également tout ce mouvement qu'on appelle donc le Mingei, le mouvement de l'art populaire, avec cette principale figure de Yanagi Muneyoshi, dans son grand livre de 1929, qui reste un petit peu la Bible pour l'étude des images d'Otsu, Shoki Otsue, les images d'Otsu primitives, justement. Alors, voilà, avec quelques représentations qui figurent en couleur de 1929 dans ce livre. Alors, c'est très difficile de résumer l'ouvrage en quelques mots. Sa principale qualité est d'avoir fait le bilan du corpus iconographique, donc une centaine de thèmes qui ont existé, d'avoir retracé leur développement historique, mais là, il n'y a pas de grand changement par rapport à la pensée de Santo Kyoden, si je puis dire, et surtout d'avoir défini, selon lui, les caractéristiques et l'intérêt de cette imagerie. Le premier élément, il s'agit pour lui donc d'une production d'artisans anonymes, et c'est une qualité première dans sa pensée. Et cette peinture est caractérisée par des conventions plastiques, par la simplification, elle est produite en grand nombre, c'est une peinture utilitaire. Elle était peu onéreuse et elle relève, selon lui, plus de l'artisanat que de la peinture véritablement. Et c'est surtout le sixième argument qui est intéressant pour nous, c'est qu'il distingue ce type de peinture d'autres formes d'art populaire, de peinture populaire, par une qualité, c'est cette capacité à critiquer l'homme et la société. Et il dit, c'est à l'époque d'Edo, la pensée du peuple et qui a développé ce qu'il appelle Fushinobi, donc la beauté de la caricature. Donc une interprétation évidemment extrêmement partielle, mais qui va devenir dominante dans l'analyse des Otsue. Et là, je vais revenir à des exemples français pour analyser l'influence qu'a eu Yanagi, notamment sur quelqu'un que vous connaissez, mais pour d'autres qualités probablement, qui est André Leroy-Gourhan, donc, qui a été titulaire dans cette maison de la chaire de préhistoire à partir de 1969. On connaît surtout ses travaux sur l'art pariétal paléolithique, mais on oublie que son premier terrain, lorsqu'il était jeune, il l'a fait entre 1937 et 1939 au Japon. Il avait plusieurs projets, dont l'un était d'écrire un ouvrage intitulé « Formes populaires de l'art religieux au Japon », ouvrage sur lequel il a travaillé entre 1938 et au moins 1943. Malheureusement, l'ouvrage n'a pas été publié. Et il voulait se servir pour, là c'est une lettre qu'il envoie à Jean Buau, conservateur au musée Guimet à l'époque, fin 38, dans laquelle il explique qu'il a en fait réuni toute l'iconographie des images d'Otsu. Et nous avons gardé un manuscrit partiel de cet ouvrage, et au moins son plan, qui nous indique sur quoi il voulait travailler, quel corpus, les Emma, les Omocha, les Otsue et les Mon. Nous ne trouvons pas ici les Ofuda. Il explique que les Ofuda ne sont pas une catégorie pertinente pour son analyse. On pourrait revenir sur cette question intéressante. Il en analyse les genres, les formes et les sujets. L'ouvrage aurait dû comporter 700 illustrations. Et parmi ces illustrations, des images d'Otsu qu'il avait reproduites sous forme de fiches pour constituer une sorte de, ce qu'on appellerait aujourd'hui, une base de données iconographique. Cette base de données comportait à l'époque, en 1940, plus de 2000 fiches sur la représentation, notamment sur la représentation animalière dans les productions populaires japonaises, productions animalières qui sont très nombreuses dans les Otsue. Alors, son interprétation de cette iconographie, alors là, c'est le problème du. On peut la saisir par quelques fragments de textes qui ont été conservés ou des éléments dans des lettres. Il dit d'abord, c'est une iconographie qui est à la limite du religieux et du profane. Et en cela, bon, c'est une analyse assez classique qui est faite également au Japon. Il explique que la matière religieuse y est faible et qu'il s'y trouve un peu de dérision. Donc là, cette dimension de giga qu'on avait vue précédemment. Et puis, une remarque intéressante, les sujets de la grande peinture s'y retrouvent fréquemment. Et puis, en dernier lieu, il y a une réflexion sur le traitement technique, où là, il reprend une analyse qui est très proche de celle de Yanagi, sur les déformations caractéristiques de cette iconographie. Je voudrais revenir juste sur le troisième aspect, à savoir comment les sujets de la grande peinture s'y retrouvent fréquemment, en citant une lettre qu'il adresse à Buau en février 40, donc après son retour à Paris, où il continue à travailler pendant la guerre sur ce sujet, où il évoque ici une œuvre qui est reproduite à droite d'après un exemple dans la collection de Yanagi Soetsu, donc ce fameux Hyotan no Namazu, ce singe à la calebasse, sur un poisson-chat. Il a écrit en japonais, ce que j'ai mis en japonais, c'est de la main de le roi Goran lui-même, le tableau d'un singe retenant un poisson-chat avec une calebasse. Et il cite donc Yanagi Otsue, l'ouvrage de Yanagi. Il semble bien évoquer comme le Yosetsu, c'est-à-dire Josetsu en vérité, dont vous parlez un proverbe. Il me devient clair que les Otsue sont des fables en images ou des sujets d'actualité du 16e 18e, comme la danse alors en vogue de Fuji Musume. Alors, il serait très intéressant d'analyser ici tous les éléments qui sont donnés dans ce petit passage, mais l'idée de fable en image, en tous les cas, est à retenir, dans laquelle on retrouve finalement un principe du shingaku, c'est-à-dire d'utiliser l'image comme support d'un message que l'on veut transmettre. Et l'autre point, c'est que des thématiques qui existaient antérieurement à l'Otsue, donc antérieurement à l'époque d'Edo, sont parfois reprises. Mais en vérité, la majorité des thèmes sont des thèmes qui sont spécifiques. Le Oni no Nembutsu n'apparaît aucunement avant l'époque d'Edo, il apparaît uniquement dans cette iconographie. Alors, à titre de résumé, parce que je crois que le temps presse, et comme piste de réflexion, question, où là je voulais juste montrer une exposition très peu connue, organisée en août 1947 au Musée de l'Homme par le roi Goran, une exposition temporaire d'art populaire japonais, dans laquelle il a montré un certain nombre de Otsue qu'il avait pu réunir au Japon, donc une représentation du Oni no Nembutsu, et puis une œuvre représentant le Oni no Gyozui, le démon prenant son bain. Alors, ce sont des copies tardives, mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'authenticité, c'était surtout le répertoire iconographique. Ces œuvres, je pense, n'ont jamais été remontrées depuis qu'elles ont été données au Musée de l'Homme. Elles sont aujourd'hui au musée du Quai Branly. Alors, à titre de conclusion, trois éléments. Le premier, c'est d'abord l'orientation récente donnée à l'analyse de cette iconographie. Et je voudrais citer un ouvrage, l'ouvrage du professeur Shinoda Junichi, grand spécialiste de Bakin, de Chikamatsu, qui a consacré son dernier livre à cette iconographie sous le titre Inolino Bunka, avec un sous-titre Otsue Moyo et Emma Moyo. Une analyse donc qui vise à replacer les Otsue dans leur rapport à la littérature et au théâtre, aux proverbes de l'époque d'Edo et, ou antérieure, et à faire les liens entre cette iconographie et les Emma, chose qui avait été peu finalement tentée jusqu'alors. Et là, j'ai mis en regard de la couverture de son livre un Emma représentant Fuji Musume, donc l'autre figure la plus connue avec le Oninembutsu, donc de la jeune fille à la glycine, qui vient donc d'un temple, d'un Yakushido se trouvant dans le département de Fukushima, et une œuvre de Genroku à travers laquelle il commence son exposé en expliquant que finalement il existe antérieurement probablement à l'apparition des Otsue des Emma avec des thèmes que l'on considère généralement comme des thèmes profanes. Le Fuji Musume étant un thème profane, effectivement, et il dit qu'il faut remettre en cause, enfin, en tout cas c'est ainsi que je l'interprète, remettre en cause la distinction habituelle entre image religieuse d'un côté, donc un développement d'une image à caractère boutique dans un premier temps, qui serait devenue ensuite une imagerie profane. Cet exemple, en tous les cas, avec d'autres, permet de modifier les chronologies. L'autre élément, pour revenir à Bernard Franck et à André Leroy-Gourhan, c'est ma question, mais je crois que tu n'es pas seul à me la poser, de la rencontre, ou de la rencontre manquée, peut-être plus exactement, entre Leroy-Gourhan et Bernard Franck, pourtant tous les deux ayant eu cet intérêt commun pour les Ofuda et des collections très, très importantes. Le troisième point, j'en parlais juste à l'instant avec Madame Petit-Mangin, l'intérêt remanifesté Bernard Franck à la fin de sa vie, plus pour la période d'Edo, notamment pour l'analyse de certaines iconographies bouddhiques comme le Aizen Myo. Et donc une question un peu que je lance comme ça, pour savoir s'il a eu connaissance, enfin, connaissance est évident, mais il s'est intéressé à cette forme que l'on peut mettre en parallèle au Ofuda, qui sont donc cette imagerie extrêmement riche, pas encore complètement élucidée des images d'Otsu. Merci.
Je remercie M. Marquet pour cet exposé lumineux sur ces images d'Otsu. Puis-je rappeler dans ce contexte que les liens entre Bernard Franck et André Leroy-Gourhan ne sont pas tout à fait inexistants, puisque, si je me rappelle bien, Bernard Franck rappelle à un certain moment qu'il s'est entretenu avec André Leroy-Gourhan sur les Ofuda en particulier, et que André Leroy-Gourhan mentionnait comme traduction des fiches de pèlerinage, traduction que Bernard Franck finalement n'a pas adoptée, mais qu'il estime assez exacte tout de même. Ce qui est plus étonnant, c'est que André Leroy-Gourhan n'a sans doute pas mentionné qu'il était également un très grand collectionneur de Ofuda, et que sa collection, qui est maintenant au musée ethnographique de Genève, est pratiquement aussi grande et bien plus variée que celle de Bernard Franck, mais qu'elle n'est évidemment pas concentré ou spécialisé sur les images des déités bouddhiques, mais comprend des images ou une imagerie de déités beaucoup plus populaire. Donc, il n'avait sans doute pas dit qu'il avait eu cette collection, et d'ailleurs, elle avait été pratiquement inconnue de la communauté des académiques jusqu'à ce qu'elle réapparaisse il y a une vingtaine d'années au musée d'ethnographie de Genève. Voilà. Nous avons peut-être 7 ou 8 minutes.